Bonjour à tous. Ce matin, pour débuter ce message, j'aimerais que nous passions en revue un passage de Luc, surtout le chapitre 24, mais tout d'abord quelques versets du chapitre 23, les versets 55 et 56, où nous vivons ce que nous avons déjà entendu dans un autre évangile tout à l'heure. Les femmes qui étaient venues de la Galilée avec Jésus accompagnèrent Joseph, virent le sépulcre et la manière dont le corps de Jésus y fut déposé. Et s'en étant retournées, elles préparèrent des aromates et des parfums. Puis elles se reposèrent le jour du sabbat selon la loi. Donc là, c'était le fameux vendredi. Le premier jour de la semaine, elles se rendirent au sépulcre de grand matin, portant les aromates qu'elles avaient préparés. Elles trouvèrent que la pierre avait été roulée de devant le sépulcre, et étant entrées, elles ne trouvèrent pas le corps du Seigneur Jésus. Comme elles ne savaient que penser de cela, voici deux hommes leur apparurent en habits resplendissants. Saisies de frayeur, elles baissèrent le visage contre terre. Mais ils leur dirent, « Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant ? Il n'est point ici, mais il est ressuscité. Souvenez-vous de quelle manière il vous a parlé lorsqu'il était encore en Galilée et qu'il disait, « Il faut que le Fils de l'homme soit livré entre les mains des pécheurs, qu'il soit crucifié, qu'il ressuscite le troisième jour. » Et elles se ressouvinrent des paroles de Jésus. Dans tous les passages que j'aimerais aborder dans ce chapitre 24, il est toujours question de « Mais ne vous rappelez-vous pas de ce qui avait été prédit ? Vous le saviez pourtant, cela avait été annoncé. » Et donc les femmes se ressouvinrent. Elles avaient déjà un souvenir de ce qui devait arriver, mais elles se ressouvinrent tout à coup. La lumière est entrée en elles. Alors au verset 11 du même chapitre, elle court vers les disciples, mais les disciples donc ont une attitude, ils tinrent ces discours pour des rêveries. Ils avaient aussi entendu ce message. Ils tinrent ces discours pour des rêveries. Ils sont incrédules. Les versets 25 à 27, il nous a dit, c'est Jésus qui parle aux disciples d'Emmaüs. Ô homme sans intelligence, et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes, ne fallait-il pas que le Christ souffrît ces choses, qu'il entra dans sa gloire ? Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Homme sans intelligence, lent à croire. Vous saviez tout ça, vous pouviez tout savoir. Et au verset 44 à 47, il nous est dit, c'est Jésus qui parle aux disciples après s'être présenté au milieu d'eux, après avoir mangé pour leur prouver que ce n'était pas un fantôme. Il leur dit, c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Alors il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprissent les Écritures. Et il leur dit, ainsi il est écrit que le Christ souffrirait, qu'il ressusciterait des morts le troisième jour et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Je vous le disais, il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi. Dans tout ce chapitre que nous avons brièvement survolé pour extraire juste ces pensées, tous ceux qui ont été confrontés à la résurrection de Jésus sont perplexes, incrédules. Les anges puis Jésus lui-même leur rappelle que toutes ces choses avaient été annoncées. Mais au fait, qu'est-ce qui avait été annoncé ? Quel est le bagage qu'ils auraient dû avoir par l'Ancien Testament ? Commençons par Genèse 3, le verset 15. Il y a une annonce là. C'est au moment de la chute. Au moment où le serpent a fait chuter Ève et Adam. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Il ne peut être question que de ce sauveur. Qui a écrasé Satan à la croix ? Ce n'est pas un homme, ce n'est pas un roi d'Israël, ce n'est pas Abraham. Ça ne peut être qu'une prophétie. Dans Genèse 22, 7 à 8, alors qu'Isaac, parlant à Abraham, son père, dit « Mon père ?» Et il répondit « Mais voici mon fils. » Isaac reprit « Voici le feu et le bois, mais où est l'agneau pour l'holocauste ?» Abraham répondit « Mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'holocauste. » C'était prophétique. Dieu a pourvu avec un bélier qui s'était pris dans les ronces pour remplacer Isaac suite à la demande du Seigneur. Mais Dieu pourvoira lui-même pour l'agneau. Et l'agneau parfait, parce que pour être agréé par Dieu, il fallait l'agneau parfait. Il n'y en avait pas d'autre. Un autre passage qui peut nous faire, qui aurait dû les interpeller. L'Éternel dit à Moïse dans Nombre 21, 8 et 9, « Fais-toi un serpent brûlant et place-le sur une perche. Quiconque aura été mordu et le regardera, conservera la vie. » Moïse fit un serpent d'airain et le plaça sur une perche. Et quiconque avait été mordu par un serpent et regardait le serpent d'airain, conservait la vie. C'est un épisode où Israël a péché contre Dieu et il y a eu des serpents brûlants qui sont tombés du ciel, en tout cas ils sont apparus, et ils en ont mordu beaucoup, il y a eu des morts, et Moïse a crié à Dieu, et c'est là que Dieu lui dit « Fais un serpent d'airain ». Et Jésus a dit « De même que le serpent a été élevé dans le désert, de même le Fils de l'homme doit être élevé ». Passons à une autre prophétie. Dans Michée 5, 1, il est dit « Et toi, Bethléem Ephrata, petite d'entre les villes de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël et dont l'origine remonte au temps ancien, au jour de l'éternité. » Cela ne peut pas être David. David est né à Bethléem, mais David n'était pas encore là au jour de l'éternité, au début de la création. Il ne peut être question que de Jésus. Et quand les mages d'Orient sont venus demander à Hérode où était le roi des Juifs, qui vient de naître, Matthieu 2, 2 à 6, je ne le lirai pas, les sacrificateurs et les scribes consultent les livres et s'appuient sur ce texte de Michée pour dire où devait naître qui ? Le Christ, loin de Dieu, le Sauveur. Il y avait une connaissance sur le Christ parmi le peuple. Dans Jean 7, 41, 42, on se posait la question, est-ce bien de Galilée que devait venir le Christ ? L'Écriture ne dit-elle pas que c'est la postérité de David, du village de Bethléem, où était David, que le Christ, de là que le Christ doit venir ? Tout ça, c'était beaucoup d'indices. Et puis, nous allons passer au psaume 22. Pardon. Le verset 2 nous dit « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Exactement les paroles que Jésus a prononcées alors qu'il était sur le point de mourir. Et il était vraiment abandonné du Père parce que le Père ne peut pas tolérer le péché. Il s'était chargé de nos péchés. À Gethsémané, il a souffert pour nos péchés. Et là, à la croix, il crie « Pourquoi m'as-tu abandonné ?» Il était dans un désarroi complet. Il était seul, pour cette lutte. Et au verset 7, il est dit « Et moi, je suis un ver et non un homme, l'opprobre des hommes, le méprisé du peuple. » Et puis, il est soumis aux railleries, les versets 8 à 9. « Tous ceux qui me voient se moquent de moi. Ils ouvrent la bouche, secouent la tête. Recommande-toi à l'Éternel. L'Éternel le sauvera. Il le délivrera puisqu'il l'aime. » Tout ça, ça a été du vécu à la croix. Si tu es le Christ, appelle Dieu, il n'a qu'à t'aider. Sauve-toi toi-même, tu en as sauvé d'autres. Tu as dit que le temple, tu le rebâtirais en 3 jours. Alors, fais-le maintenant. Ça, dans un psaume de David. Et les versets 15 à 20, il nous est dit, « Je suis comme de l'eau qui s'écoule, et tous mes os se séparent. Mon cœur est comme de la cire, il se fond dans mes entrailles. Ma force se dessèche comme l'argile, ma langue s'attache à mon palais. Tu me réduis à la poussière de la mort, car des chiens m'environnent. Une bande de scélérats rôde autour de moi. Ils ont percé mes mains et mes pieds. Je pourrais compter tous mes os. Eux, ils observent, ils me regardent. Ils se partagent mes vêtements, ils tirent au sort ma tunique. Et toi, Éternel, ne t'éloigne pas. « Toi qui es ma force, viens en hâte à mon secours. » Ils m'ont percé. Est-ce que les Romains étaient au courant, quand ils ont tiré au sort la tunique, quand ils se sont partagés les vêtements, que c'était une prophétie de combien d'années avant, de David à Jésus-Christ ? C'était annoncé. Nous avons lu Ésaïe 53, vendredi. J'aimerais juste repasser un peu en revue ce qui était dit sur ce serviteur. Et je vous propose déjà dans le chapitre 52, les versets 13 à 15. De même, 13 à 15, pardon. « Voici mon serviteur prospérera, il montera, il s'élèvera bien haut, de même qu'il a été pour plusieurs un sujet d'effroi, tant son visage était défiguré, tant son aspect différait de celui des fils de l'homme. De même, il sera pour beaucoup de peuples un sujet de joie. Devant lui, les rois fermeront la bouche, car ils verront ce qui ne leur avait point été raconté. Ils apprendront ce qu'ils n'avaient point entendu. » Et puis, le chapitre 53, qui est tellement important. « Qui a cru ce qui nous était annoncé ? Qui a reconnu le bras de l'Éternel ? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards. Son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé, abandonné des hommes, homme de douleur, habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné. Nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité, opprimé. Il n'a point ouvert la bouche. Semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui la tondent, il n'a point ouvert la bouche. Il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment. Et parmi ceux de sa génération, qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants et frappé pour les péchés de son peuple, de mon peuple? On a mis son sépulcre parmi les méchants, son tombeau avec le riche. Quoiqu'il n'y ait point commis de violence et qu'il n'y eut point de fraude dans sa bouche, il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité et prolongera ses jours. Et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. à cause du travail de son âme, il rassasira ses regards. Par sa connaissance, mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes et il se chargera de leur iniquité. C'est pourquoi je lui donnerai sa part avec les grands. Il partagera le butin avec les puissants, puisqu'il s'est livré lui-même à la mort et qu'il a été mis au nombre des malfaiteurs, parce qu'il a porté les péchés de beaucoup d'hommes et qu'il a intercédé pour les coupables. Il a intercédé pour les coupables. L'une des dernières paroles de Jésus à la croix, c'était « Père, pardonne-leur », même à ceux qui l'ont cloué sur la croix, ceux qui l'ont insulté, ceux qui l'ont frappé. « Pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. » Luc 23, 34. Un passage, je reviens bien plus tôt dans l'Ancien Testament, dans Exode 12, 13. « Je suis l'Éternel. » Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous, et il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je frapperai le pays d'Égypte. Le soir de la première Pâque, Dieu a demandé à ce qu'on mette du sang d'agneau sur chaque linteau de porte, sur chaque poteau de porte, et il a dit, quand je verrai ce sang, et quand il voit son sang sur nous, il sait que le destructeur n'a plus son œuvre à faire. Nous appartenons à Jésus. Et un dernier passage que j'aimerais relater dans le Nouveau Testament, Jean 1, 29, nous dit « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » C'était prophétique aussi. Et beaucoup. Il y avait au moins 2 disciples de Jean qui ont suivi Jésus par après. Ils l'avaient entendu. Mais tout ça paraît avoir été oublié au moment où ces événements sont arrivés. Tous ces passages qui annoncent le sacrifice de Jésus, l'agneau de Dieu et le pardon par la foi étaient très connus pour les Juifs, descendants d'Abraham. Ils se réclamaient toujours d'Abraham, héritier de la loi de Moïse. Mais quand Jésus est apparu, avec puissance et autorité, ses œuvres spectaculaires, les miracles, cela leur a fait oublier qu'il fallait passer pour lui par la trahison des siens. L'humiliation par un pouvoir civil et religieux au service du mal, par l'abandon du Père, par la mort atroce, comme pour le pire des criminels. L'espoir d'un royaume de Dieu glorieux en Israël est anéanti en l'espace de 2 jours. Il y a quelques jours, il a fêté comme un roi son entrée à Jérusalem. C'était formidable, tout le monde s'est réjoui, ça y est. Maintenant, on passe à la vitesse supérieure. En fêtant la Pâque, ce jeudi soir-là, il a chanté les cantiques avec eux, dans Marc 14, 16. Et puis, après la Sainte Cène, ils vont au Mont des Oliviers. Et là, tout à coup, les événements deviennent incontrôlables. Alors que tout paraissait aller selon leurs idées. Tout devient incontrôlable. Le dernier acte pour eux, c'est la pierre scellée du tombeau. C'est fini. Il avait lui-même annoncé plusieurs fois qu'il fallait passer par là. Mourir et ressusciter au 3e jour. Les disciples n'avaient entendu que ce qu'ils voulaient entendre. Ils avaient pris leur rêve pour la réalité, leurs sentiments. C'était bien, c'était beau avec Jésus. Oui à la gloire, au miracle, au chemin sans embûche. Et puis, leurs préoccupations les trahissaient aussi. Après l'institution de la Sainte Cène, dans Marc 22, le verset 24, tout à coup, alors que Jésus est déjà en train de les préparer et que lui-même est déjà dans l'anxiété, il s'éleva aussi parmi les apôtres une contestation, lequel d'entre eux devait être considéré comme le plus grand. Ça, c'est des soucis, n'est-ce pas? C'est ahurissant. Jésus les a préparés et eux, leurs idées, c'est « Qui parmi nous sera le premier ? Qui est le plus grand parmi nous 12 ?» C'est quand même formidable. L'humanité dans toute sa splendeur. Lors du choix des disciples, il y a eu une énorme erreur de casting, d'après moi. Hein? Comment peut-on, avec des gens comme ça? Quand j'étais jeune, adolescent, je me suis dit que si Judas n'avait pas été choisi, c'était un mauvais choix d'après moi, Jésus n'aurait pas été trahi et il ne serait pas mort à la croix. C'est tout simple, mais c'est nos idées humaines, bien humaines. On aurait pu le sauver. Et le royaume de Dieu se serait étendu tranquillement, comme ça s'est passé en Galilée, comme ça s'est passé en Israël, du temps de Jésus, quand il œuvrait. Alors, j'ai dit erreur de casting, je pense que ce n'était pas seulement pour Judas. Simon a renié Jésus. Jacques et Jean, il les a appelés les fils du tonnerre. Ils voulaient faire tomber le feu du ciel sur une ville parce qu'on ne les avait pas reçus. On n'avait pas reçu Jésus. Formidable. Thomas n'a pas cru au témoignage des autres après la résurrection. Tous ont fui, ont abandonné Jésus. Il est question dans Jean, d'un jeune homme qu'ils ont voulu saisir parce qu'il suivait un peu de loin et s'est enfui nu parce qu'il leur a laissé les habits pour pouvoir se tailler. Et on pense que c'est Jean parce que c'est le seul qui le relate. Hein. Tellement ils étaient tous des super copains de Jésus. Personne n'avait compris le but de la venue de Jésus. Si on doit résumer, il est venu pour quoi ? Il y a un verset dans 1 Jean 3,8 pour nous l'annoncer en 13 petits mots. Le Fils de l'homme est venu afin de détruire les œuvres du diable. Ça, c'était sa mission. Tout le reste, c'était des signes de sa puissance. Mais il est venu détruire les œuvres du diable. Et ce verset, il faut qu'il s'imprègne en nous. Nous avons besoin de nous rappeler constamment. Il n'est pas venu pour embellir notre vie ici-bas, pour que nous soyons dans l'abondance, tant mieux si nous le sommes, mais son œuvre, c'était détruire l'œuvre du diable, nous arracher des griffes de Satan, parce que nous étions tous condamnés. Dans Matthieu 16, après avoir, sous l'inspiration du Saint-Esprit, confessé que Jésus était le Christ, le Fils du Dieu vivant, ça c'est Pierre, n'est-ce pas ? Pierre rejette le plan du salut de Dieu selon lequel Jésus doit souffrir, mourir et ressusciter. À Dieu ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. Hein, ça, c'est Pierre. Non, et je vais veiller. Hein. Faut pas que ça arrive. Pierre veut sauver Jésus. C'est formidable. Pierre veut sauver Jésus. Tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes, au verset 23 de Matthieu 16. C'est Jésus qui lui dit, il faut que nous intégrions les pensées de Dieu. Pourquoi toutes ces incompréhensions ? Parce que chacun tournait autour de soi-même. Dans Matthieu 26, c'est avec une épée, en coupant une oreille, que le même Pierre s'oppose à l'accomplissement du plan de Dieu. Il veut encore sauver Jésus. Il va trahir Jésus, il va le renier. Et 3 fois, Jésus lui avait annoncé, il a dit, pas question, moi j'y vais jusqu'à la mort s'il le faut. Il le renie. Et c'est à l'initiative de Jésus qu'il doit sa restauration. C'est Jésus qui est venu et par 3 fois lui a demandé, autant de fois qu'il l'a renié, « M'aimes-tu ? » Et lui a confié une mission. Vous vous rendez compte ? Ce gars, il lui confie une mission. « Paix mes brebis. » Il a vécu un renouvellement de l'intelligence, selon Romains 12, 2. Il faut que l'intelligence de chacun d'entre eux, nous, de tous ceux qui son gracier aussi soit renouvelé, que nous ayons en vue le plan de Dieu. À l'exemple des femmes, des disciples de Pierre, laissons-nous interpeller par la connaissance de la parole. Reconnaissons que les plans de Dieu sont parfaits et bien plus pertinents que les nôtres. Dans Ésaïe 55, les versets 8 et 9, le Seigneur dit « Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voies ne sont pas mes voies, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voies sont élevées au-dessus de vos voies, et mes pensées au-dessus de vos pensées. » L'agneau a été sacrifié. Il nous a sauvés en versant son sang. Il est ressuscité, assis à la droite du Père, et il revient bientôt nous chercher. Laissons au Seigneur le travail de nous remettre les pendules à l'heure, comme ce matin, hein, mais nous avons vraiment besoin d'être branchés sur son plan et pas sur nos idées. Et il veut nous bénir. Ce n'est pas qu'il veut tout renverser, mais il veut nous bénir, il veut que nous entrions dans son plan. Amen. Prions encore. Père, ta parole est tellement riche, tellement puissante, et nous aurions été exactement comme les disciples, comme ces femmes, parce que nous avons quelques bribes de choses, de versets aussi, qui nous plaisent parfois, et nous voudrions bien que tout le reste nous soit épargné. Mais nous te demandons que la grâce de nous remplir de ta plénitude et de ne pas chercher que les bons moments, mais aussi de voir ta conduite, ta direction à chaque instant de nos vies, que ce soit le jour ou la nuit, Seigneur, que ce soit les ténèbres ou la lumière. Tu as dit « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde » et nous comptons sur toi et nous croyons à cette promesse. «